Radio Kapi.
En sommes-nous avec les négociations entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M23? Il est à présent incertain d'en dire long quant au début des négociations directes et en ouverture de ce journal, brève description de la situation réelle sur le théâtre des combats. Nous revenons sur la situation liée au pluie de vendredi dernier, cette fois-ci dans le quartier Ngomba Kikusa, commune de Mongafula. Des parcelles disparues, des têtes d'érosion ça et là. C'est vraiment le désespoir et surtout que Kinshasa vient de connaître cet après-midi une nouvelle densité d'eau aux conséquences que nous vous décrirons dans nos prochaines édition. Vous pouvez les voir ça et là dans les avenues de vos quartiers respectifs, ces vaccinateurs contre la polio. Et dans ce journal, nous recevons comme invité Dr Elisabeth Mukamba, coordinatrice du comité d'urgence polio. C'est pour donner le point et les raisons de cette nouvelle campagne. Découvrons alors sous peu les autres faits d'actualité à travers le pays. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonsoir. Les négociations entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M23 ont repris ce mercredi 9 avril à Doha, au Qatar. C'est la deuxième phase après celle de la semaine dernière. Cependant, il reste difficile de déterminer précisément le début des négociations directes et le format adopté par la médiation qatarienne qui n'a fait aucune déclaration officielle. Entre-temps, sur le terrain, les affrontements continuent dans le nord et le sud Kivu entre les FARDC soutenus par les Wazalendo et l'AFC M23 appuyé par le Rwanda. Les détails dans ce reportage de Martial Papi Mukeba.
Au site Kivu, les combats se poursuivent depuis ce matin autour de l'Emera dans Kalehe et près de l'aéroport de Kavumu à une vingtaine de kilomètres de Bukavu. Dans les territoires de Kalehe, les Wazalendo ont repris une dizaine de localités dont Chanje, Bushaku 1 et D et Nyawarunga. Selon nos sources, ces offensives entre Bukavu et Uvira ont été lancées après que l'AFC M23 a dégarni certaines positions pour préparer les redéploiements de ses combattants en vie d'une offensive sur deux autres grandes villes de l'est du pays. Au nord Kivu, l'AFC M23 occupe depuis deux jours sept villages dans les sites de Lubero selon des sources locales. Walika le centre, chef-lieu du territoire et des garnis, et les FARDC ainsi que les Wazalendo contrôlent à nouveau la cité. Les rebelles se concentrent sur Massissi centre où des accrochages sporadiques sont signalés. Les Wazalendo en périphérie mènent des offensives pour déloger les rebelles sans succès. La rébellion dénonce dans un communiqué une violation du cessez-le-feu par les gouvernements congolais. Certaines sources craignent une reprise des combats violents si un cessez-le-feu bilatéral n'est pas signé entre les gouvernements et l'AFC M23 malgré les discussions en cours à Doha. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, les FARDC ont remis ce vendredi 11 avril une quarantaine des civils ex-otages des ADF à la société civile de Beni en vue de leur réinsertion familiale. Parmi eux figurent 13 femmes et 8 enfants libérés lors des affrontements entre les rebelles ADF et les forces conjointes FARDC-UPDF dans plusieurs localités du territoire de Lubero. On y retrouve également un proche collaborateur d'un chef des ADF de nationalité congolaise qui s'est rendu aux forces de la coalition. Le président de la société civile de Beni, Pépin Kavota, salue cette libération et appelle la population à accueillir ces ex-otages sans stigmatisation. Il est au micro d'André Kitingi.
C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que lorsque un travail des titans vient de s'abattre par les opérations Soudja, nous pensons que comme société civile, nous ne pouvons être contents de ce qui vient de se faire. Donc, par le canal de moi comme président de la coordination, je suis tellement content de voir nos frères et sœurs qui étaient dans les griffes des ADF qui nous ont été remis aujourd'hui, 11 avril 2025. C'est donc pour moi l'occasion, encore une fois, de demander à la population de les accueillir comme des enfants de la maison et la population de ne pas les stigmatiser. Mais aussi demander à ceux-là qui sont peut-être encore dans les rangs des ADF s'ils trouvent un petit moment de quitter, il faut qu'ils quittent. Parce que nous devons nous tous construire la paix. Là où ils sont, ce n'est pas bon, c'est une vie très misérable. Nous ne pouvons pas comprendre comment les gens peuvent rester dans ces groupes qui entraînent, n'est-ce pas, d'endeuiller toute la République et particulièrement la province du Nord Kivu et de l'Ituri.
L'actualité nous maintient dans la province du Nord Kivu où les activités socio-économiques reprennent forme progressivement en dépit des défis sécuritaires et financiers qui persistent dans les zones occupées. Du petit commerce notamment, l'approvisionnement en produits vivriers manufacturés en passant par la production locale mais aussi l'import-export, il s'observe une certaine résilience dans le secteur économique selon plusieurs témoignages. Tout le monde cite comme difficulté majeure la paralysie du système bancaire qui empêche le redécollage des activités. Du Nord Kivu, nous nous rendons dans la province de l'Ituri. La présence des rebelles des ADF dans plusieurs entités du territoire de Mambasa inquiète les acteurs de la société civile. Ces derniers redoutent la pénurie de certains produits sur les marchés. D'après ces activistes, de nombreux agriculteurs ont abandonné leurs champs à cause de l'insécurité. Une situation qui affecte aussi des exploitants artisanaux d'or. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La présence de ces rebelles des ADF est signalée dans les chefferies de Babila Bakwanza, Babila Babombi et tout récemment dans la chefferie de Mambasa. Ils investissent des carrés miniers où se retrouvent aussi des vastes étendues de champs, ce qui risque d'impacter négativement sur la vie socio-économique de la population. Marie-Noël Anotane est coordinatrice territoriale de la société civile du Congo.
Les ravitaillements en nourriture, ça devient un problème. C'est quoi ravitailler le territoire de Mambasa, surtout au niveau du centre, mais aussi le territoire de Beni, parce qu'il y a des voitures qui quittent Mambasa, bien chargées de foufou, de manioc, des biens de première nécessité. Il y a risque qu'il y ait augmentation des prix. Celles qui font les champs ont leurs enfants. C'est le travail des champs qui fait polariser ces enfants et nourrir ses enfants. Les orpailleurs ou les opérateurs miniers, ils vivent de ce travail-là d'orpaillage. Ça devient déjà un manque à gagner parce qu'il n'y aura pas circulation de l'argent.
Des voix s'élèvent de plus en plus pour demander aux autorités militaires d'élargir les opérations de traque de rebelles des ADF dans d'autres régions où ils se sont déplacés. L'autorité territoriale rassure que des efforts sont fournis pour sécuriser la population.
Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Retour dans le Nord Kivu. L'ancien député provincial Eze Kanendu tire la sonnette d'alarme sur l'avancée du M23 au sud-ouest du territoire de Lubero. Il cite l'occupation de plusieurs villages par ce mouvement rebelle après avoir attaqué des positions des combattants Wazalendo en pleine période des pourparlers annoncés à Doha au Qatar. Selon lui, le gouvernement congolais doit clarifier sa position sur les stratégies adoptées pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Eze Kanendu s'exprime ici dans un zen extrait recueilli par André Kitenge.
Le gouvernement congolais ne devrait pas engager le dialogue direct avec les éléments du M23 sans se rassurer de l'effectivité du cessez-le-feu et les garanties de l'aboutissement erré du processus de négociation. Pendant que le dialogue se poursuit au Qatar, le M23 vient d'attaquer les positions de Wazalendo au sud-ouest du territoire de Lubero avant d'occuper par force les villages de Kasenge, Luhanga, Kyuto, Kasiki, Mukeberwa, Bwavinywa et Pitakongo. À cet effet, 3 personnes ont été tuées sauvagement et 5 autres blessées par balles, suivies des pillages de biens et de bétail. Je pense qu'il est temps que nous soyons éclairés sur les options levées par notre gouvernement, car la population commence à perdre la confiance au tâtonnement judiciaire, politique, diplomatique et militaire. Toutes ces options ne peuvent pas être levées concomitamment, car les unes bloquent les autres.
Toujours dans le Nord Kivu, les habitants de plusieurs villages situés aux environs de Massissi Centre déplorent le vol de leurs récoltes. Sont notamment concernés les villages de Luashi, Kahuma, Muhondo et Singa. Des agriculteurs résidant dans le chef-lieu du territoire, mais possédant des champs dans ces localités, sont également touchés. Ces habitants, de retour après avoir fui les affrontements entre l'armée régulière et le M23, se retrouvent sans ressources alimentaires, toutes leurs récoltes ayant été dérobées. Ces retournés sollicitent une assistance en vivres ainsi que des intrants agricoles pour pouvoir relancer leurs activités. Le point avec vous, Rachel Kessembangou.
Après avoir enduré des souffrances dans leurs divers lieux de refuge, ces habitants ont décidé de regagner leur village dans l'espoir de récolter les produits qu'ils avaient semés avant leur fuite. Cependant, ce sont des champs déjà récoltés qu'ils ont découverts. Bananes plantains, haricots, pommes de terre, manioc, rien n'a été laissé. Ils se retrouvent désemparés, ne sachant plus comment subvenir aux besoins de leur famille.
Lorsque je suis rentré du lieu où j'avais fui, j'ai trouvé que les voleurs s'étaient servis dans mon champ. En tout cas, dans mon champ, il n'y a plus rien. Avant de fuir, nous avions semé les haricots et les courges à Luashi. À notre retour, nous n'avons rien trouvé. Les gens vont récolter là où ils n'ont pas semé et ça nous fait vraiment mal. Tu vas voir ton enfant pleurer de faim et tu n'as rien à lui donner. Tu vas dans ton champ champ, tu trouves tout ce que tu avais laissé a déjà été récolté et ils ne te laissent rien.
Si ceux qui y ont encore accès à leur champ pleurent la perte de leur récolte volée, d'autres habitants, eux, ne peuvent même pas s'y rendre en raison de l'insécurité persistante. Ces agriculteurs réclament le retour de la paix.
Deuxième titre de ce journal. Les fortes pluies de la semaine dernière n'ont pas entraîné que des inondations à Kinshasa. Sur les collines, des érosions se sont agrandies, les nouvelles têtes ont aussi vu le jour. C'est le cas au quartier Ngomba Kikusa vers Lupen, dans la commune de Ngaliema. Certains ont perdu des parcelles entières ou en partie. Des pans d'avenue ont disparu. Après ces pluies, chacun tente de s'organiser pour protéger son lopin de terre. Mais tous se disent que c'est une cause presque perdue sans une aide pour bien canaliser les eaux. Trio Banzé, Benjamin Mudumbi et Étienne Lissumbu nous décrivent la situation.
Dans ce coin de la capitale, nous trouvons plusieurs habitations entourées devant et derrière par des érosions. Ce sont des érosions de 10 et 20 mètres qui, pendant des fortes pluies, déversent dans une vallée profonde. De nombreuses familles vivent tout autour et des enfants y jouent, sans tenir compte du danger qu'ils encourent. Les dernières pluies n'ont fait qu'aggraver les choses, déplore cette habitante.
La pluie a fait des dégâts importants. L'eau a débordé et emporté des parcelles. Une dame est même décédée. L'érosion s'est agrandie sur trois avenues, Kimayala, Droit de l'Homme et Kinsaka. Ce sont des démunis qui vivent ici. Ils sont là parce qu'ils ne savent où aller.
Pour le moment, chacun essaie de protéger tant soit peu son habitation.
Nous essayons de protéger le sol avec ces sacs de terre. Là, nous fixons des pieux en bambou pour le maintenir, pour éviter des glissements de terre s'il pleuvait encore.
Pour cet autre habitant, le problème est lié au manque de caniveaux et des avenues convenables.
Nous avons un seul caniveau. Quand il y a la pluie, cette eau passe directement sur toutes les avenues. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de route. Nous avons ces avenues qui ne mesurent même pas 2-3 mètres. Que l'État puisse structurer tout ce qui est en rapport avec les cadastres.
Tous lancent un SOS aux autorités pour la construction rapide des caniveaux afin d'épargner ses habitants du danger.
Sachez qu'en début de cet après-midi, il y a eu encore une forte pluie sur la ville de Kinshasa. Déjà, il est signalé des montées d'eau dans les avenues, notamment dans la commune de Lagombe, au rond-point Willeri et dans d'autres coins de la ville province de Kinshasa. C'est autre nouvelle avant de passer à la page internationale. Les hippopotames sont menacés d'extinction par des groupes armés au niveau de la rivière Ruzizi et du lac Tanganyika à Uvira. Dans un espace d'un mois, 10 ont été tués en guise de ration alimentaire aux détenteurs d'armes qui se trouvent sur la ligne de front. Le Comité mondial du suivi des hippopotames s'insurge contre cette pratique que l'un de ses membres au Sud Kivu, Josué Aruna, qualifie d'écocide. Il lance un appel patriotique aux braconniers qui menacent ces espèces totalement protégées par des lois du pays et des conventions internationales. José Aruna est au micro de Radio Okapi.
C'est depuis fin février, début mars, que nous avons vu des alertes venant de nos membres qui sont sur terrain, qui assurent le monitoring des hippopotames au niveau de la rivière Ruzizi et au lac Tanganyika, que les groupes d'autodéfense qui sont sur terrain ne vont pas mourir de faim, ils doivent consommer des hippopotames. Tuer au moins 10 hippopotames dans une échéance de 2 mois, c'est très grave par rapport aux engagements internationaux en matière de conservation de la biodiversité. Ces ressources sont des ressources pour notre pays et le pays est signataire des conventions internationales au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En tant que membre du Comité mondial de suivi des hippopotames, nous allons faire un rapport pour que le Comité mondial d'Hippo puisse contacter notre gouvernement au niveau national de prendre des dispositions utiles afin que cet écocide soit arrêté. Des massacres des espèces qui sont totalement protégées par les lois du pays et des conventions internationales lesquelles la nation a signées.
Actualité internationale.
Les pays africains qui étaient confrontés à certains des tarifs douaniers réciproques les plus élevés de l'administration Trump ont connu un moment de soulagement jeudi avec la suspension des droits de douane, mais des nouvelles incertitudes pèsent sur les entreprises clés qui envoient des vêtements et des textiles, de la vanille et des fruits aux États-Unis. Le Lesotho, Madagascar et l'Afrique du Sud étaient menacés de tarifs douaniers parmi les plus élevés dans le cadre du plan du président américain Donald Trump. Le leader de l'opposition tanzanienne Tundu Lissu a été accusé de trahison jeudi suite à son arrestation lors d'un rassemblement public. Jeudi après-midi, l'opposant est arrivé au tribunal de première instance de Kisutu dans la capitale commerciale Dar es Salaam de bonne humeur et en compagnie de ses avocats et d'hommes politiques du parti d'opposition. Alors qu'il appelait à des réformes électorales avant les élections générales prévues en octobre, Tundu Lissu, président du principal parti d'opposition Tchadema, avait été arrêté mercredi soir pour ce que la police régionale a qualifié d'incident.
L'invité.
281 cas de polio ont été enregistrés en 2023 et en 2024, le pays a enregistré 27 cas. Pour Dr Elisabeth Mukamba, coordinatrice du comité d'urgence polio, des efforts énormes ont été consentis dans la lutte contre la polio. Entre janvier et mars 2025, un cas de polio a été identifié à Kinshasa dans le site de Pakajuma. C'est ce qui explique l'organisation d'une campagne de vaccination contre la polio dans 6 provinces de la RDC du 10 au 12 avril 2025. Dr Elisabeth Mukamba s'entretient avec Stanislas Diumi et les notes. Invité.
Docteur Elisabeth Mukamba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du comité d'urgence au polio. Alors, le lancement de la campagne de vaccination contre la polio débute déjà ce 10 avril à Kinshasa et dans les 6 autres provinces. Alors, de façon générale, comment se présente la situation de la polio en RDC pour le moment et pourquoi avoir lancé la campagne de vaccination contre la polio en ce moment?
Merci beaucoup. Pour vous faire juste un aperçu de la situation de la poliomyélite en RDC, je peux juste vous donner les chiffres sur les deux dernières années. En 2023, après la grosse épidémie et le gros pic que nous avons connu en 2022. En 2023, le pays a enregistré un total de 281 cas de polio. Ce sont des poliovariants, il faut le signaler. Et les efforts menés tout au long de l'année 2024 ont permis de réduire de plus de 90% le nombre de cas de poliovariants. Et le pays a totalisé 27 cas. C'est pour vous dire que des efforts énormes ont été consentis. Et pour 2025, partant du mois de janvier au mois de mars, sur les semaines épidémiologiques, il y a un cas de poliovirus qui a été isolé dans l'environnement parce que le pays a mis en place, à côté de la surveillance de la poliomyélite au travers des enfants qui sont atteints de paralysie flasque, le pays met en œuvre la surveillance environnementale en prélevant les eaux usées dans certains sites de collecte. Et un cas a été notifié ici à Kinshasa, au site de Pakajuma, ce qui est une indication pour organiser une riposte autour de ce cas de polio, parce que certainement qu'il y a une infection dans la communauté qui peut-être est passée inaperçue, mais il faut effectivement répondre de manière efficace pour arrêter la circulation de ces polios.
Et alors, quelles sont les provinces concernées par cette campagne et quelle tranche d'âge avez-vous retenu?
Alors, il faut noter que nous avons deux groupes de provinces. Cette subdivision en deux groupes de provinces est dictée, orientée par l'épidémiologie. Nous avons les provinces du sud-est, donc le Haut-Katanga, Oulomami, Tanganyika, qui est Kinshasa, où le virus variant de type 2 avait été isolé. Et de ce fait, on utilisera le NOPV2, c'est toujours un vaccin contre la polio, un vaccin oral, mais qui cible cette souche-là qui a été identifiée. Maintenant, nous avons aussi à faire face à un virus variant de type dans la province de la Tchopo. Ce cas a été confirmé chez un enfant de plus de 10 ans. Et de ce fait, l'analyse de risque a été faite pour vacciner dans la province de la Tchopo. Donc les zones de santé environnantes au foyer, donc c'est la zone de santé de Loa, toutes les 23 zones de santé de la Tchopo, mais aussi 6 zones de santé de la province du Maniema. Ce qui fait que, étant donné que la cible est au-delà de la cible habituelle que nous vaccinons, les 0 à 5 ans. Et pour répondre efficacement à cette menace des plus de 10 ans, dans ces deux provinces, donc Nord Kivu et Maniema, c'est le vaccin polio oral, le BioPV avec la souche 1 et 3, qui sera administré aux enfants de 0 à 15 ans.
Alors à Kinshasa, on commence déjà le 10 et c'est jusqu'au 12 avril. Et le mois de mai, ça va commencer de quelle date à quelle date?
Alors, nous prévoyons pour le mois de mai organiser la campagne entre le 15 et le 17 mai.
Quel message pouvez-vous lancer à tous les parents qui doivent faire vacciner leurs enfants pendant cette campagne de vaccination contre la polio?
Nous lançons cet appel pour que ce partenariat ne soit pas brisé, que les parents autorise la vaccination des enfants, ouvre à nouveau les portes pour que les enfants soient vaccinés, de manière à ce que nous arrivons vraiment d'ici les 2-3 prochaines années à effectivement dire qu'on a arrêté la circulation du poliovirus en RDC.
Docteur Elisabeth Mukamba, je rappelle que vous êtes coordonnatrice du comité d'urgence polio en RDC. La Radio Okapi vous dit merci d'avoir répondu à son invitation.
Merci.
Et voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Jude Mister Bilanda, Jacques-Yves Molima et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.